2 en temps universel RFI matin continue et se termine tout de suite le journal des sports. Avec vous, Victor Messistrano, c'est la course cycliste la plus prestigieuse du monde, le Tour de France. Grand départ aujourd'hui en Italie.
Les 176 coureurs vont s'élancer de Florence, 26e départ depuis l'étranger, le premier en terre italienne. Et ça commence fort, hein, 206 km et 7 ascensions aujourd'hui. Le sprinter Binyam Girmay va donc devoir attendre la troisième étape avant de pouvoir viser la victoire. L'Érythréen, qui n'avait pas fait mieux qu'une troisième place l'an passé pour sa toute première grande boucle. Cette fois, il vise plus haut, lui qui garde de bons souvenirs sur les routes italiennes.
C'est vrai que c'est en Italie que j'ai gagné ma première victoire en Grand Tour. On passe 3 jours ici et j'aurai peut-être une chance de victoire. J'arrive en tout cas avec plus d'expérience, avec un meilleur train aussi pour m'emmener dans le final. Et puis, nous sommes 2 sprinteurs dans l'équipe cette année. Ça veut dire que je peux un peu plus choisir mes étapes et tout donner spécialement ces jours-là. Donc ce sera un tour différent pour moi.
Binyam Girmay au micro de notre envoyé spécial Thomas de Saint-Léger.
On parle à présent des Jeux Olympiques, la République démocratique du Congo, toujours en quête de la première médaille de son histoire.
3 boxeurs s'apprêtent à représenter la RDC à Paris, parmi eux 2 s'entraînent à Lubumbashi au sein du mythique club du TP Mazembe, où l'on ne joue pas qu'au football. Brigitte Mbabi a obtenu son ticket lors d'un tournoi de qualification olympique en Thaïlande. Peter Kabeji doit lui sa participation à son titre de champion d'Afrique des mi-lourds. Et forcément, pour le club de Mazembe, c'est une grande fierté d'envoyer 2 de ses membres au JO. Pascal Mangala.
Toujours au chevet de ses athlètes, Franck Kilolo, président de Mazembe section boxe, est l'homme le plus heureux.
C'est une grande fierté pour notre club, TP Mazembe. Et c'est une première fois dans l'histoire de la boxe, parce que c'est une discipline qui a fait la fierté de toutes les disciplines confondues.
Coéquipière en club de Peter Kabeji et Brigitte Mbabi, Marie-Joëlle Mouika ne doute pas que ses 2 collègues soient en mesure de briller aux Jeux Olympiques de Paris.
Avec leur courage, leur détermination, leur travail... Donc ça promet.
Le défi est d'offrir à la RDC une première médaille olympique, une chose réalisable avec une meilleure préparation, estime Brigitte Mbabi, 22 ans, et qualifiée dans la catégorie des haltères des 66 kilos.
On connaît Mazembe Sema au foot, et voilà, nous qui faisons la boxe, si vraiment les autorités nous soutiennent, ainsi que les soutiens de notre président Maurice Katumbi Tshakwe, on va prendre au moins une médaille.
Même rêve pour Peter Kabeji, invité lui pour son statut de champion d'Afrique en titre chez les mi-lourds. La devise du clan des corbeaux, impossible n'est pas Mazembe, sera une motivation supplémentaire. Les supporters, pour leur part, resteront des cœurs avec leurs ambassadeurs, malgré la distance, ont-ils rassuré. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Et puis c'est le début des 8e de finale de l'Euro de football aujourd'hui au programme Suisse-Italie à 16h temps universel, puis Allemagne-Danemark à 19h TU, un match à suivre en direct et en intégralité sur RFI.
Victor Messistrano, merci, très bonne journée. Nous, comme chaque week-end, on continue notre série Les mots des JO et Lucie Bouteloup qui nous parle ce matin de fair play.
Les mots des JO, Lucie Bouteloup.
Pendant les compétitions des JO, le comité organisateur attend des athlètes qu'ils fassent preuve de fair play. Alors le fair play, qu'est-ce que c'est? Le mot vient de l'anglais fair, qui veut dire juste, loyal, et play, comme le verbe jouer. Dans le milieu sportif, le fair play, c'est donc pratiquer en respectant les règles, mais aussi son adversaire. Alors bien sûr, ça sous-entend qu'on accepte la victoire, mais plus difficile, qu'on accepte aussi la défaite. C'est le contraire d'être un mauvais joueur, en somme. Mais pour l'historien du sport, Patrick Clastre, le fair play renvoie aussi à l'idée d'une communauté, celle de sportifs qui partagent un même code d'honneur, et tout commence en Angleterre à la fin du 19e siècle.
À l'époque, les sportsmen, c'est-à-dire les élites aristocratiques et bourgeoises, pratiquent le sport en respectant leur adversaire comme des chevaliers respectaient celui qui était tombé à terre. Et dans l'esprit des sportsmen, le fair play, c'était une manière aussi de moraliser les classes inférieures, lesquelles, issues des milieux populaires, ne pouvaient dans leur esprit pratiquer le sport que pour l'argent, donc à coup de triche et à coup de violence. Le fair play, c'est donc au départ une sorte de barrière sociale, et c'est devenu aujourd'hui un bien partagé par toute l'humanité des sportifs.
Depuis les sportsmen, le fair play est donc devenu une des valeurs cardinales du sport. Et Pierre de Coubertin, grand admirateur de ces élites anglaises, décide donc de mettre cette notion au cœur de ces jeux modernes. La preuve, dans la charte olympique, le mot apparaît 14 fois. Alors aujourd'hui, on l'utilise comme nom, on parle par exemple du fair play dans une compétition, mais aussi comme adjectif, on dit d'un athlète qu'il est fair play parce qu'il a accepté la décision de l'arbitre par exemple. Alors dans la langue française, depuis 1973, l'équivalent officiel c'est jouer franc jeu. On joue franc jeu dans le domaine du sport bien sûr, mais pas seulement. Comme fair play, il peut avoir un sens plus large. Quand on joue franc jeu avec quelqu'un par exemple, c'est qu'on agit en toute transparence, qu'on joue carte sur table. On peut dire aussi qu'on annonce la couleur, il n'y a pas d'entourloupe à redouter. Mais revenons au fair play. En plus du respect des règles et de son adversaire, la notion renvoie aussi à l'idée d'une certaine élégance. Ce sont par exemple les adversaires qui se serrent la main à l'issue d'un match et qui se félicitent pour leur prestation. Ça peut aussi être un sprinteur qui aide un de ses concurrents à se relever pour qu'il puisse terminer sa course. Le genre d'attitude récompensé par le Comité international pour le fair play qui a décerné le premier prix du fair play aux Jeux de Tokyo en 1964. Les champions de ce prix, deux Suédois qui ont préféré renoncer à leur chance de gagner dans une épreuve de voile pour aller prêter secours à deux de leurs adversaires qui venaient de chavirer. Des champions donc. Ça, c'est une autre histoire.
Les mots des JO, une chronique avec le soutien des ministères de la Culture, de l'Europe et des Affaires étrangères et des Sports.
Lucie Bouteloup et les mots des JO que vous retrouvez en version retranscrite sur françaisfacile.rfi.fr.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et l'Iran à la une ce matin des premiers résultats après la présidentielle hier, le réformateur Massoud Pezeshkian en tête. Selon des chiffres provisoires à 42%, l'ultra-conservateur Saïd Jalili juste derrière à 40%. C'est donc un second tour qui semble se profiler pour la deuxième fois seulement en 45 ans. Et après un premier tour largement boudé par les électeurs, 40% de participation selon des premiers chiffres, des aveux majeurs pour les autorités qui appelaient à une forte participation. Il en allait de la dignité et du crédit de la République islamique, disait même le guide suprême Ali Khamenei. Après les manifestations du mouvement Femme, Vie, Liberté. En Mauritanie, les bureaux de vote ont ouvert pour la présidentielle. En France, J-1 avant les élections législatives anticipées. Le silence électoral a commencé à minuit. Après les derniers meetings, le vote commence aujourd'hui en Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, dans les Antilles et en Nouvelle-Calédonie. Et puis lui reconnaît ne pas être un aussi bon débatteur qu'avant, mais je peux faire le boulot, affirme Joe Biden. Le président américain a paru plus en forme hier lors d'un discours au lendemain du débat face à Donald Trump et de sa contre-performance qui a ravivé les inquiétudes sur son âge jusqu'au sommet de son parti. Le New York Times a publié il y a quelques heures un éditorial qui appelle le président sortant à se retirer de la course à la présidentielle au profit d'un autre candidat démocrate. Et bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Retour avec vous justement ce matin sur ce débat entre Joe Biden et Donald Trump dans la course à la présidentielle. Un Joe Biden qui s'embrouille dans ses réponses et refuse d'accepter que ses forces l'abandonnent. Un Donald Trump incapable d'accepter une défaite électorale qui prend de larges et surprenantes libertés avec la vérité. Quels signaux reçoit l'Afrique de la démocratie américaine ?
Depuis que Donald Trump a lâché ses partisans à l'assaut du Capitole en janvier 2021, la démocratie américaine a cessé d'impressionner en Afrique. Trump a même failli rabaisser les États-Unis au rang de ces républiques bananières que lui-même méprise tant. Il n'empêche, bien des tares que l'on déplore régulièrement dans la vie politique en Afrique ne paraissent plus improbables en Amérique ou dans certaines grandes démocraties. Ainsi, lorsque Joe Biden, manifestement diminué, sent plus assez de lucidité pour admettre qu'il serait peut-être temps pour lui de passer la main, certains en Afrique se demandent ce qui le différencie de Robert Mugabe, même s'ils n'ont rien en commun dans la pratique du pouvoir. Quant à Donald Trump, qu'aurait l'aplomb avec lequel il assène les approximations à envier à certains despotes d'Afrique ou d'ailleurs. Le pire ici est que Biden, inconsciemment, est en train de faciliter le retour de Trump à la Maison-Blanche. Ce serait l'ultime preuve que très peu de démocraties aujourd'hui sont à l'abri d'un recul brutal. Surtout dans un monde où nombre d'électeurs d'insatisfaction en déception due aux politiciens n'hésitent plus à faire, quand bon leur semble, un usage capricieux de leur bulletin de vote.
Aux États-Unis, au moins certains leaders, amis de Biden, disent tout haut qu'il devrait s'éclipser.
Mais comme en Afrique, il est aussi des partisans ou courtisans qui n'osent pas dire la vérité à ce leader qui sombre dans un naufrage évident. Par tendresse ou par calcul, certains tentent de faire croire qu'il pourrait, demain, retrouver la vigueur qu'il faut pour rassurer les Américains. Et pourtant, à vue d'œil, celle-ci l'abandonne de jour en jour. C'est comme cela qu'en Afrique, des dirigeants fatigués, sinon finis, s'accrochent envers et contre tout. Certes, aux États-Unis, les institutions fonctionnent. Mais les questionnements qui découlent du débat de ce jeudi n'interpellent pas que le présent, c'est aussi, surtout, l'avenir qui est en cause. Et l'on imagine comment Joe Biden pourrait, durant les 4 prochaines années, retrouver la vigueur qui semble l'abandonner jour après jour. Après tout, aux États-Unis, le président de la République est d'abord le commandant en chef des armées. Convenir qu'il est durablement diminué n'est pas de la malveillance, mais juste ne pas parier sur l'incertitude par rapport aux charges de leader du monde libre. Et c'est ici que ce qui peut être considéré comme un problème typiquement américain devient une source de cauchemar pour la planète. Dans son déni de tout, Donald Trump a laissé croire que Biden était en train de précipiter l'humanité vers une troisième guerre mondiale. Et si c'était lui-même, au cas où il retournerait à la Maison-Blanche ? Joe Biden, en cédant la place à un candidat plus solide, rendrait un service à son peuple et à la terre entière dans un monde guetté par tant de dangers.
Barack Obama a pourtant fait valoir que les débats décevants font partie de la vie politique.
Un débat voulu et longuement préparé par Biden, ses propres médecins ne peuvent assurer que le naufrage du temps l'épargnera au fil de la campagne. Ni même si l'un et l'autre arriveront à l'élection. Se convaincre qu'il y aura des jours meilleurs, c'est se mentir. Et c'est au nom de tous que parlent tous ceux qui demandent aux démocrates de se trouver un candidat plus convaincant. Et s'il avait le courage de l'accepter, Joe Biden pourrait entrer dans l'histoire comme il est entré pour toujours Lyndon Baines Johnson en renonçant à un second mandat qui aurait mis son parti en lambeaux. Les Américains, aujourd'hui encore, considèrent LBJ comme un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis. En politique, il faut parfois savoir perdre un peu pour gagner l'immortalité.
Jean-Baptiste Placat, merci beaucoup. Bientôt 8h en temps universel, RFI Matin, c'est bientôt fini. Mais on ouvre d'abord notre parenthèse tout en son du samedi. Écoutez le monde avec Monica Fantini, qui nous propose aujourd'hui une traversée sonore du Caire, la capitale égyptienne.
Écoutez le monde.
La voix du Caire.
Hebade Aduna.
Écoute. Chomo Sedoye Johanro Mishinabit.
يا ريس
Thank you.
Écoutez le monde.
C'est quel type de vibe que tu veux? Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée. Tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux. Et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux? Yeah yeah. Chérie, 5 étoiles et l'hôtel. Y'a à peu près tous des garçons, des cocktails. Dès que t'es OP, appelle-moi sur mon tel. Juste pour la soirée, je veux que tu sois ma Gisèle. Si t'as les pouvoirs, je veux que tu sois magicienne. Et que tu mettes la vibe. Bébé, que tu mettes la vibe. Mais bébé, c'est quel type de vibe? Tu mets tellement de temps à te décider. Tu sais, j'ai eu le temps de me faire des idées. Mais ça, c'est encore un autre type de vibe. Ça dirait de venir surfer sur ma vague. Là où personne pourra nous déranger. Là où personne nous dira de changer. Je pense que t'aimes bien ce type de vibe. Chérie, dis-moi, c'est quel type de vibe que tu veux? Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée. Tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs. Moi, je suis venu pour te tirer les cheveux. Et juste après, on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux? Yeah, yeah.
Le français Opinard et son titre « Quel type de vibe » dans la playlist d'RFI. Et pour refermer cette édition d'RFI Matin, merci de l'avoir suivi. Merci à Anaël Lenoé à la réalisation de ces 3 heures. On se retrouve demain dès 5 heures, temps universel. Et d'ici là, l'info continue. Restez avec nous. Très bonne journée sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Elles seront, elles aussi, au cœur des JO de Paris 2024. Les marques, les grandes entreprises qui ont choisi de miser sur cet événement planétaire pour leur image, leur visibilité. À quel prix et selon quelle méthode, quelles sont les recettes du marketing sportif adaptées aux valeurs de l'olympisme?
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la BOAD,
tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. L'Afrique en jeu. Sylvère Henri Cissé.
Comment expliquer la mainmise des coureurs d'Afrique de l'Est sur le fond et le demi-fond? Pourquoi cette suprématie et l'affaire des athlètes des hauts plateaux? Pourquoi les Kenyans et les Éthiopiens courent pour exister et gagner? Leurs secrets sont à découvrir avec Bibiro Alitaer, marathonienne, olympienne, tchadienne.
L'Afrique en jeu avec Sylvère Henri Cissé.
Tout à l'heure à 11h30 TU sur RFI.